On va passer donc à l'exposé de Michel Lemaire. Michel Lemaire fait partie de ces animateurs du monde des études littéraires assistées par ordinateur, donc à travers l'Astrolabe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est professeur au département de lettres françaises de l'Université d'Ottawa. L'Internet littéraire francophone, vous le savez, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans le Canada. Et c'est un plaisir que d'écouter aujourd'hui donc ce qu'il va nous dire sur l'utilisation des textes littéraires.
Michel. Ça, on va voir. Merci. Alors, depuis une dizaine d'années, les œuvres de la littérature française ont été publiées progressivement sur Internet. Et on trouve maintenant tous les grands textes de la chanson de Roland au poème de Rimbaud. Et je crois qu'il serait temps de penser à faire une évaluation globale de cet effort de publication, c'est-à-dire d'abord d'évaluer quel est le corpus exactement, quelles sont les œuvres publiées, quelles sont les lacunes, et surtout d'évaluer la qualité de ces publications électroniques. Quelles sont les éditions et quelle est la qualité du travail lui-même. Mais cela, ça demanderait l'organisation d'un immense projet concerté, parce que c'est un travail vraiment énorme. Une autre chose qu'il faudrait faire, je pense à un niveau global, face à cet effort de publication, c'est d'évaluer l'utilisation que l'on fait de ces textes mis en ligne. Et là aussi, ça demanderait, donc, cette fois-ci, une enquête sociologique pour voir quel est l'usage réel qui est fait de ces textes. Je vous indique immédiatement la crainte que je ressens, c'est que j'ai bien peur que l'utilisation que nous faisons actuellement des textes électroniques ne soit pas à la hauteur de l'effort qui a été consenti depuis une dizaine d'années pour mettre ces milliers et ces milliers de textes en ligne. La situation me semble paradoxale. Les textes littéraires numériques se multiplient, et alors qu'on dit qu'on ne lit pas de textes à l'écran. Si on ne lit pas ces textes, qu'en fait-on? Est-ce qu'on les utilise autrement? Ou est-ce que simplement on se contente de les publier et on les laisse là, dans les terres de l'Internet ou du cyberespace sans les utiliser. Je ne vous présenterai aujourd'hui ni les résultats de cette enquête de grande envergure que je souhaite, ni au niveau sociologique, ni une analyse même partielle de la qualité de ces textes électroniques. Je ne m'arrêterai pas non plus aux nouvelles formes du texte électronique, comme l'hypertexte, ou aux nouveaux genres littéraires qui peuvent naître maintenant avec les avant-gardes littéraires. Il y a d'autres personnes qui vont parler de cela. Mon objectif est plus humblement de faire le tour des utilisations possibles actuelles du texte électronique, de réfléchir sur les obstacles à cette utilisation et de voir quelles sont les méthodes ou les instruments qui nous permettraient de mieux en profiter de ces textes. Donc, que peut-on faire de ces textes électroniques? Excusez-moi, ça c'était mes objectifs. Alors, je considérerai plus loin l'utilisation de ces textes en tant que corpus d'analyse, mais je voudrais en premier lieu m'arrêter sur une utilisation évidente mais controversée de ces textes. C'est que ces textes, d'abord, on peut les lire. Non pas les consulter afin d'en tirer les informations, mais les lire dans ce qu'on appelle la lecture longue, comme la lecture d'un roman de la première page à la dernière page, pour les découvrir, les comprendre, les apprécier. Je pense qu'on peut les lire, quoique certains théoriciens, et sans doute la majorité actuellement, disent que la lecture à l'écran est impossible, ou alors que c'est une activité radicalement différente de la lecture d'une œuvre sur un support papier. Bien sûr, la navigation sur Internet est un type de lecture différent, en particulier en raison des liens hypertextuels. Bien sûr, les expériences de poésie concrète, multimédia ou autres sont des types de lecture complètement différents de la lecture longue. Mais je m'intéresse ici donc à la lecture des textes traditionnels, la lecture d'un roman, la lecture d'un essai, qui, dit-on, est impossible sur un support électronique, et je vais essayer de vous montrer le contraire. Au contraire, je pense que c'est quelque chose de tout à fait possible et quelque chose qui va se développer. Je pense que les affirmations sur cette impossibilité de la lecture à l'écran tiennent à la nouveauté de l'expérience et au fait que nous sommes dépaysés face à ce nouvel instrument de lecture. Nous avons été formés à la lecture par la lecture des livres. Et lorsque nous avons commencé à lire à l'écran, nous avons été plus frappés par la nouveauté de cette expérience que par la continuité de cette expérience de lecture. Nous sommes tout à coup sortis de nos habitudes, nous n'avons plus le livre que nous pouvons même renifler, feuilleter, nous n'avons plus la table des matières que nous savons qui est à la fin au début, nous n'avons plus notre fauteuil, notre espace de lecture, et donc nous sommes désarçonnés, sortis de nos habitudes. Et nous avons été donc frappés par cette différence plus que par la continuité. Mais je pense qu'avec l'usage, nous allons découvrir que, en fait, ces deux expériences ne sont pas si différentes l'une que l'autre. Certes, dans la lecture à l'écran, l'objet livre, le codex, disparaît. Donc, l'expérience de lecture est différente, puisque découvrir un texte, c'est en fonction d'un certain environnement de lecture, d'un certain vécu, et que l'objet que nous avons entre les mains est un élément, constitue une partie importante de cette expérience. Et tout à coup, cet objet disparaît pour être remplacé par autre chose. Mais on a été frappé donc par cette disparition, et on a oublié que le texte, lui, demeurait. Rappelons-nous, par exemple, non pas le passage du rouleau au codex, on est quand même trop jeune pour cela, mais simplement le passage du livre de poche, l'apparition, pardon, du livre de poche. Et comment, à ce moment-là, les lecteurs sérieux ont décrété que c'était une lecture différente, vulgaire, populaire, et que la lecture savante, c'était autre chose. Et puis, au bout d'un temps, il a bien fallu admettre que lire un roman de Balzac dans le livre de poche ou lire un roman de Balzac dans la Pléiade, certes, il y avait une différence, mais à la fin, on avait lu le même roman de Balzac. Le support pouvait être le même, pouvait être différent, mais le texte demeurait le même. Et je pense qu'une fois qu'on aura pris l'habitude de la lecture à l'écran et qu'on aura développé de nouveaux instruments qui permettent de pallier les inconvénients actuels, eh bien on découvrira que la distance n'est pas aussi grande que cela. Évidemment, il va falloir apprivoiser ce nouvel instrument, mais n'oublions pas que l'ordinateur personnel n'a que 25 ans et que dans l'histoire de la lecture, c'est quand même très bref. Et je pense que le passage au livre électronique prendra moins de temps que le passage du rouleau au codex, par exemple. L'Internet offre à la lecture, soit gratuitement, soit contre paiement, une masse extraordinaire de textes littéraires. L'offre gratuite porte essentiellement sur la littérature précédant le XXe siècle. L'offre de littérature contemporaine, à part les œuvres expérimentales, en langue française est relativement limitée. Cependant, elle se développe très rapidement aux États-Unis. Et l'édition de ces textes s'est beaucoup améliorée au cours des dernières années. On a compris que pour lire un texte à l'écran, il ne fallait pas simplement proposer un texte dactylographié, dans Word par exemple, mais qu'il fallait présenter un texte véritablement édité. Et on a fait des progrès au niveau des polices de caractère, par exemple, et au niveau de la mise en page. Le principe étant d'arriver à créer une mise en page à peu près équivalente à celle du livre papier, qui n'est pas du tout indispensable, mais simplement pour ne pas dépayser le lecteur. Je vais commencer par vous donner deux exemples que je prends au Québec de ces possibilités de lecture à l'écran. D'abord, un site qui s'appelle poète.com, qui a été créé par Jacques Lemaire, pas du tout parent avec moi, et qui propose une sélection très abondante dans la littérature française du XIXe siècle. on trouve là des poèmes, mais des recueils entiers de Hugo, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, et aussi les petits romantiques, les petits, les parnassiens, les symbolistes, etc. Les textes y sont édités de manière très claire et très élégante, accompagnés d'illustrations, et dans certains cas même de musique. Par exemple, pour ce poème de Verlaine, si vous cliquez sur musique étude opus de Chopin, eh bien vous entendez la musique de Chopin en même temps que vous lisez le poème. D'autre part, de plus, les poèmes sont encadrés de tout un appareil critique. Si vous cliquez par exemple ici sur le premier vers qui est en bleu, eh bien vous allez avoir des notes sur le poème. Donc tout un appareil critique. Des notes ponctuelles, des réflexions sur les mouvements poétiques au XIXe siècle, qui rendent cette édition très pertinente, je crois, pour une utilisation scolaire. Dans le cas de poète.com, ce sont des pages en HTML parce que c'est destiné essentiellement à être lu à l'écran. Dans d'autres cas, on pourra préférer un autre format, parce que pour lire les œuvres plus longues, eh bien évidemment, on pourra les télécharger dans son ordinateur. C'est le choix qu'a fait Jean-Yves Dupuis de la Bibliothèque électronique du Québec, qui lui publie ses textes au format PDF d'Adobe. On trouve dans ce site pour téléchargement toutes les grandes œuvres de la littérature québécoise du XIXe siècle et du début du XXe siècle, ainsi que d'autres auteurs comme Cervantes, Jules Verne ou Maupassant. Les textes sont au format PDF, qui a des inconvénients et des avantages. Hein. Des inconvénients, c'est évidemment que ces fichiers sont très lourds, mais le PDF s'est quand même remarquablement amélioré depuis quelques années. Je vous en donne un exemple, le roman de Louis Aymond, Maria Chapdelaine, où vous avez là dans ce site une édition qui est illustrée par un grand peintre québécois qui s'appelle Clarence Gagnon. Alors voyez ce que ça donne quand on lit un texte comme cela à l'écran. Et évidemment, il y a toutes les possibilités de navigation, hein, de passer d'une page à une autre ou de prendre des notes. Un texte comme ça en PDF est disponible donc pour tous les ordinateurs hein, ou autres appareils. Lire à l'écran de son ordinateur de bureau présente l'inconvénient d'imposer une station assise à sa table de travail devant un texte affiché verticalement. Il est donc nécessaire de disposer d'un appareil portable pour pouvoir lire dans d'autres cadres, son fauteuil, son lit, un autobus ou un avion. Et c'est ce qu'a essayé de proposer le livre électronique, le e-book. Vous avez là un article sur le lancement du e-book français en 2001. On sait que cette tentative là, du e-book a été un échec, mais je crois que cet échec s'explique essentiellement par des raisons commerciales. Et il y a de nouvelles tentatives actuellement du côté du PDA, de l'agenda électronique, du côté des ordinateurs portables ou du côté des ordinateurs tablettes, hein, qui, je pense, vont répondre à ce besoin, en évitant les erreurs du e-book et permettent donc une lecture adaptée à tous les environnements. En 1997, Pierre Perroux, bien connu pour être responsable du site Athéna, écrivait ce qui suit. Les textes électroniques représentent un encouragement à la lecture et une participation conviviale à la diffusion de la culture. Il facilite l'étude des textes, recherche séquentielle, analyse, comparaison, préparation de matériel didactique, pour la personne qui doit effectuer une recherche, préparer un cours, un exposé, un commentaire, des transparents. Ils sont un bon complément au livre imprimé, celui-ci restant irremplaçable lorsqu'il s'agit de lire. Et voyez maintenant ce second paragraphe. Nous nous sommes rendus compte, une fois de plus, que le livre demeurait un compagnon mystérieusement sacré vers lequel convergent de profonds symboles. On le serre dans la main, on le porte contre soi, on le regarde avec admiration. Sa petitesse nous rassure autant que son contenu nous impressionne. Sa fragilité renferme une densité qui nous fascine. Comme l'homme, il craint le feu, l'eau et le feu, mais il a le pouvoir de mettre la pensée de celui-là à l'abri du temps. Je pense que ce second paragraphe traduit bien l'attachement presque mystique que nous avons pour l'objet livre. Mais je pourrais reprendre le paragraphe et mot à mot l'appliquer à ma relation avec mon PDA. C'est un petit appareil merveilleux qui contient une tonne de choses, qui craint l'eau, qui craint le feu, mais que je peux mettre dans ma poche et qui permet à la pensée humaine de demeurer. Le PDA aujourd'hui, c'est tout ce qu'on veut. Je vous précise tout de suite que cet appareil-là, c'est un vieil appareil, mais n'est ni un téléphone, ni un appareil photo. Mais c'est un agenda électronique, c'est un carnet de notes, c'est un carnet d'adresses. Ça me permet de voir des photos, d'écouter de la musique, de jouer aux échecs, mais ce n'est pas un téléphone. Mais essentiellement, de mon point de vue ici, c'est un livre. Je peux mettre dans cet appareil des dizaines, des centaines de livres, et les lire agréablement. L'échec du livre électronique tenait au fait qu'il imposait un format propriétaire. Il fallait acheter des livres qu'on ne pouvait lire qu'avec un certain logiciel qui était fourni et qui imposait donc par la suite une certaine bibliothèque. Ce format étant propriétaire et la bibliothèque étant réduite, évidemment, on allait buter sur un mur et arriver à un échec commercial. C'était bien évident. Mais maintenant, soit pour les PDA, soit pour les appareils portables, les ordinateurs portables, il existe des logiciels de lecture que l'on peut télécharger de n'importe quelle librairie électronique. Je vous donne l'exemple français de Moby Pocket Reader, enfin c'est en anglais, mais c'est le logiciel qui est utilisé, je crois, le plus en France. Et toutes les librairies électroniques fournissent gratuitement, comme ça, un logiciel de lecture, le plus connu étant le Reader d'Acrobat. D'autre part, le logiciel de lecture est gratuit, pour évidemment favoriser la vente des livres. Mais d'autre part, ces librairies proposent maintenant un logiciel de transfert, ici ce qui s'appelle Moby Pocket Creator, et ce logiciel de transfert permet de prendre n'importe quel texte électronique et de le porter dans un format qui permet la lecture avec le lecteur de le logiciel de lecture correspondant. Donc on n'est plus enfermé dans l'offre d'une librairie, on peut lire comme cela tous les textes qu'on veut, tous les textes numériques. Là, j'ai choisi l'exemple de Moby Pocket et de... parce que c'est le format qui est le plus connu en France. Mais je voudrais vous montrer ce que ça donne dans un autre lecteur. Qui est le lecteur le plus utilisé aux États-Unis, qui s'appelle, c'est le format e-reader, et là vous trouvez toutes les nouveautés, les best-sellers comme d'autres nouveautés. Voyez ce que ça donne donc à l'écran, soit de votre ordinateur portable, soit de votre PDA, et vous avez des nouveautés comme Da Vinci Code. Et évidemment, dans ces cas-là, dans un lecteur comme cela, on peut marquer sa page, on peut prendre des notes, on peut choisir l'arrière-plan, le papier, on peut choisir voyez, vous pouvez choisir le papier. Ici, c'est le papier que j'ai choisi, il s'appelle Canva. On peut choisir la police, on peut choisir la grosseur de la police. Donc, on peut adapter complètement le texte à sa justification simple ou double des deux côtés. On peut adapter le texte à sa lecture. Vous avez lu, j'imagine, le code de Vinci, hein, vous savez que ça, vous vous rappelez comme ça commence, il affirme que le prieuré de Sion est une vérité historique, alors qu'on a appris ensuite que c'était une invention il y a quelques années, mais lui y croyait. Je vous donne un exemple français maintenant. Voilà l'édition de Tristan et Iseut, vous savez, qui a été faite au début du XXe siècle par Joseph Bélier. Hein. Voici l'édition donc dans la police et le papier que j'ai choisi simplement pour mes lectures. Alors, l'offre américaine au format Adobe, PDF, au format de Microsoft Reader ou au format de e-reader, le format que je viens de vous montrer, se développe rapidement, même pour les nouveautés. L'offre française est plus réduite. Hein. On trouve par exemple chez Moby Pocket des classiques et quelques nouveautés, surtout des livres pratiques. Hein. On trouve à la FNAC, dans les magasins de la FNAC, un bon échantillonnage de livres électroniques, mais on en trouvera plus évidemment dans les librairies spécialisées comme Moby Pocket ou Numilog pour les livres techniques. Essentiellement, ce sont là des librairies qui vendent leurs produits. Mais il y a aussi des sites qui offrent des livres gratuitement, là c'est essentiellement la littérature classique, comme le site e-book libre gratuit, je vous donne des exemples français bien sûr, et ou e-book France. Le problème avec la lecture numérique, c'est que à première vue, l'écran sépare le lecteur du texte, alors que notre familiarité avec le livre papier nous donne l'impression d'être en contact avec le texte. En fait, nous ne pouvons pas plus toucher le texte à l'écran que dans un livre. Dans un livre, ce que nous touchons, c'est le papier. Ce n'est pas le texte. Le texte est toujours au-delà de notre atteinte. Et simplement, nous pouvons entrer en contact avec le texte intellectuellement, mais pas avec nos doigts, comme la familiarité du livre nous en donne l'impression. Mais l'ordinateur, donc, dans l'ordinateur, le texte semble éloigné, hors d'atteinte, enfoui dans les entrailles de la machine et dématérialisé. Certes, les signes électroniques, les signes graphiques ont été changés en une suite de 1 et 0, mais sur demande, le texte est toujours là. Il n'est pas plus long d'ouvrir un livre électronique que d'ouvrir un livre papier. Mais l'écran, nous sommes comme pris avec ce mot écran, l'écran est à la fois quelque chose qui nous montre et quelque chose qui nous masque les choses. L'écran de la télévision nous montre des choses, mais l'écran devant un foyer nous protège, masque des choses, hein, nous sépare d'autres choses. Et nous nous heurtons aussi à ce mot de virtuel. Tout à coup, ces textes sont virtuels, ces fichiers sont virtuels. Nous avons beaucoup de mal à nommer ce nouvel état des fichiers électroniques, des fichiers numériques. Et ce mot de virtuel nous donne l'impression qu'une fois que l'ordinateur est éteint, le texte n'existe plus. Et simplement à la possibilité de revenir à la réalité. En fait, le texte est toujours là. Le texte est toujours dans l'écran. Il est toujours aussi réel qu'un texte papier. La différence, c'est que pour le lire, nous avons besoin d'un instrument, d'un nouvel instrument qui va nous permettre donc de retrouver le texte. Alors que dans le cas d'un livre, le livre dans un certain sens est aussi un instrument, mais moins dépaysant que ce nouvel instrument de lecture. Et nous ne pouvons pas naturellement lire cette suite de 1 et 0. Nous avons besoin d'une traduction qui va nous être donnée par l'appareil électronique. Et ce que permet les logiciels de lecture, ce que permettent les logiciels de lecture dont je vous ai donné les exemples, c'est que le texte ne semble plus noyé à l'intérieur dans les entrailles de l'appareil, tout entouré d'icônes, et il faut le retrouver dans le fichier Mes documents, etc. Mais tout à coup, le texte va apparaître comme à la surface de l'écran, comme dans un livre, il apparaît à la surface du papier. Donc, familier, stable, facile à manipuler. On peut le faire fermer et l'ouvrir, et donc facile à lire. Alors nous pouvons donc maintenant, avec ces progrès, lire un roman à l'écran. Nous pouvons aussi l'analyser. Mais cette médiation de l'ordinateur dont j'ai parlé à propos de la lecture a aussi un impact majeur lorsque nous voulons utiliser le texte, non plus pour le lire, mais pour l'analyser. Mais on n'imagine pas aujourd'hui un chercheur lancé dans une étude littéraire assistée par ordinateur sans son livre papier. Le vrai texte est là. Le texte dans l'ordinateur est un adjuvant de la matière première à statistique. Mais le texte qu'on étudie est toujours le texte papier. Que cela soit toujours indispensable compte tenu de la qualité problématique des textes numériques, c'est évident. Mais c'est surtout que nous ne lisons pas le texte numérique. Nous lisons le texte papier et nous nous aidons du texte numérique. Alors, pour voir les possibilités de l'analyse de ces textes littéraires, d'abord, je voudrais vous donner une idée de la diversité de ces ressources et ensuite voir les utilisations que on peut en faire. Les bibliothèques virtuelles, par leur format, ne favorisent pas la lecture numérique. Et en particulier la décision de la Bibliothèque nationale de France d'offrir dans son site Gallica au point de départ des textes en format qu'on a appelé image a suscité bien des interrogations. On ne peut pas lire un livre en passant d'une page comme cela dans le site Gallica au format image parce que le chargement est beaucoup trop lent. Toutefois, personnellement, ça m'a toujours paru très intéressant cette offre de Gallica. Parce qu'elle permet d'atteindre des éditions originales qu'on ne pourrait pas, surtout si on travaille à l'étranger, qu'on ne pourrait pas consulter sans cela. Par exemple, quand on travaille sur Baudelaire, Gallica offre l'édition de 1857 qui comprend les pièces condamnées, l'édition de 1861 ou celle de 1868. Et d'ailleurs, la Bibliothèque nationale du Québec a pris la même décision en publiant les œuvres, une décision équivalente tout au moins, en publiant les œuvres au format PDF. La différence, c'est qu'à la Bibliothèque nationale du Québec, on peut télécharger l'œuvre entière. On n'a pas à télécharger page après page comme ça se passe avec... Maintenant, on peut télécharger toute l'œuvre. Le fichier image. Ah bon. Mais dans ces cas-là, les bibliothèques virtuelles nous offrent plus des documents en fait que des textes. Et sans aucun doute que c'est une dimension qui va se développer et qu'on obtiendra ainsi non seulement des documents textes, mais des documents images. Un littéraire, pour ses analyses, a besoin de plans, de cartes, de gravures, de tableaux. Et puisque l'Internet le permet, évidemment, ces bibliothèques vont devenir multimédia. C'est tout à fait naturel. Parmi ces documents que les bibliothèques peuvent nous offrir, il y a évidemment, pour le littéraire, les manuscrits. On peut tout à coup avoir accès aux manuscrits, soit photographiés tels quels, soit transposés, transcrits et dactylographiés. Et le projet Flaubert, dont on va parler, je pense, est un très bel exemple de cela. Chaque manuscrit de Madame Bovary est comme ça, transcrit, dactylographié, avec toutes les variantes, toutes les corrections. Vous avez là, par exemple, la transcription d'une page de la mort de Madame Bovary. Mais pour une consultation courante, le format le plus pratique, c'est évidemment le format HTML. Et Gallica fournit aussi des textes au format HTML. Et par exemple, pour continuer dans mon Baudelaire, nous avons aussi l'édition Adam, qui est une édition tout à fait respectable et que nous pouvons consulter et télécharger et mettre dans notre ordinateur avec chez Gallica. L'autre grande source de textes, c'est Athéna, qui d'une part publie des textes et d'autre part donne les adresses des autres textes. Et je continue dans mon exemple de Baudelaire. Vous voyez, par exemple, si vous cherchez les œuvres de Baudelaire, eh bien Athéna vous propose soit à Gallica, soit aux Affaires étrangères, soit chez eux, différentes éditions. Et à ce moment-là, Gallica Athéna offre le format RTF, qui, quand on veut travailler dans un texte, finalement, est le format le plus pratique. On conserve toute la richesse du texte français et en même temps, c'est le format le plus léger. À côté de ces institutions, d'autres bibliothèques offrent d'autres textes, plus marginaux, mais aussi qui peuvent être très intéressants, comme à vue ou à vous, et la Bibliothèque internationale de Lisieux. Et finalement, il ne faut pas oublier tous les textes, tous les sites privés ou d'associations qui s'intéressent à un auteur et qui offrent l'œuvre de cet auteur ou une partie de l'œuvre. Mais là, évidemment, la qualité des textes peut varier beaucoup plus d'un site à l'autre. Si on résume cette offre des bibliothèques virtuelles en un tableau, vous voyez que les formats, il y a là, j'ai mis les principales, là, certains dont je vous ai parlé, d'autres dont je ne vous ai pas parlé. J'appelle bibliothèques virtuelles donc les sites qui offrent gratuitement des textes. Vous voyez que le format HTML et le format PDF sont les plus importants. Pour les PDA ou autres, vous avez surtout le format Microsoft Reader, MobiPocket et e-reader. Pour résumer, l'offre des librairies virtuelles, c'est-à-dire les sites qui vendent des textes, là, on voit qu'il y a, vous avez ce tableau, et on voit qu'il y a, enfin, mon tableau est trompeur parce qu'il y a là une prépondérance apparemment de MobiPocket, mais c'est que je vous ai donné les principales librairies françaises, les principales ressources françaises. Et en fait, la ligne où vous avez e-reader.com, cette librairie américaine, son offre est immense et elle constitue une grande partie du marché, ce qui fait que le lecteur et le format e-reader qui apparaît ici une fois est en fait sans doute le format le plus important. Un chercheur peut donc utiliser un texte numérique comme objet d'analyse, comme corpus d'analyse, soit directement à l'intérieur du site où il trouve ce texte, soit en le téléchargeant dans son ordinateur. Certains sites proposent aussi des instruments d'analyse maison, en plus des textes. D'autres sites ne donnent pas un accès au texte dans son ensemble, mais simplement permettent, par un instrument de recherche, de sortir des données, de sortir des informations de ces textes. Et à ce moment-là, ce sont plus pour moi des bases de données textuelles que de véritables bibliothèques. C'est le cas de Frantext à Nancy, ou d'Arfel à l'Université de Chicago. Je vous donne cet exemple parce que c'est aussi de la littérature, c'est là aussi de la littérature française. Personnellement, j'ai des réserves face à ces instruments de recherche, parce que s'ils fournissent des données tirées des textes, et bien en même temps, ils séparent le lecteur de son corpus. Le chercheur n'est jamais véritablement en présence du texte sur lequel il travaille. Dans le cas d'un corpus réduit à une œuvre, par exemple, il ne connaît jamais la qualité réelle du texte électronique. Et bien sûr, à ce moment-là, il a le texte papier à côté, mais ces deux textes, le texte papier et le texte électronique, ne se recouvrent jamais exactement, ni au niveau du texte lui-même, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la qualité du texte électronique, ni au niveau de l'utilisation qu'on va faire de ces deux textes. Dans le cas d'un corpus plus étendu, Frontex ou Artfell, évidemment, offre des possibilités d'extraction de données qui sont qu'un chercheur qui n'utilise pas l'ordinateur ne pourrait pas avoir. Mais ces données n'ont pas la valeur objective qu'on pourrait croire à première vue, puisqu'elles dépendent d'un corpus qui nous est dans une bonne mesure inconnu. Tout au moins, les dimensions et la qualité exacte du corpus n'est pas vérifiable dans la pratique. L'ordinateur, à ce moment-là, se transforme en un chapeau de magicien. On donne un coup de baguette magique, quelques clics, et on reçoit des données, comme cela, qui sont très impressionnantes, mais qu'on ne peut pas vérifier, et donc qui n'ont pas l'objectivité qu'on pourrait leur attribuer a priori. Ceci me ramène au fil de mon exposé, qui est le contact avec le texte. Je crois toujours que le texte littéraire n'est pas un texte comme les autres. Pour le lecteur comme pour le chercheur en littérature, le texte n'est pas simplement une source d'information. Et ce n'est pas simplement une masse de mots dont on peut tirer des données. Le texte littéraire, pour être lu, compris, apprécié ou analysé, demande à être présent au lecteur dans sa globalité. Un texte est, on l'a dit, une totalité signifiante. Et l'analyste ou le lecteur doit être dans une relation personnelle, je dirais charnelle, avec le texte. Et c'est ce que fournissait le livre et ce que semble ne plus fournir le contact avec l'ordinateur. Et c'est pour répondre à ce besoin que le chercheur actuellement a toujours le texte papier à côté de cet adjuvant électronique. Et à ce moment-là, il travaille donc sur deux textes qui finalement sont ou peuvent être différents. Et je crois que pour que l'analyse littéraire assistée par ordinateur se développe, il faut réunir ces deux textes, les unifier, et au profit donc du texte numérique. Des sources comme Frontext ou Artfell masquent le texte de manière catégorique. Mais en général, l'ordinateur, simplement par sa complexité, ou les logiciels d'analyse par leur caractère technique ou les connaissances théoriques qu'ils demandent, éloignent aussi constamment l'analyste du texte au moment où ils prétendent le servir. L'ordinateur, à ce moment-là, devient une machine et non pas l'outil dont le lecteur ou le chercheur aurait besoin. Je reprends cette distinction classique entre la machine et l'outil. L'outil étant le prolongement de la main de l'homme, l'outil ou du cerveau de l'homme. À l'origine, l'outil fonctionne par la force musculaire de l'homme. L'homme comprend totalement l'outil. L'outil est transparent pour son utilisateur. La machine, au contraire, échappe à l'homme. Elle fonctionne à partir de son énergie propre. Et son fonctionnement est opaque. L'homme fournit des données ou fournit de la matière première à la machine qui transforme cette matière première au cours d'un processus plus ou moins connu et qui, à la fin, fournit un résultat, fournit des données. Et ce résultat est plus ou moins étranger au chercheur. Des outils comme le marteau ou le crayon sont totalement au service de l'homme et au contrôle de l'homme qui les tient. Des machines comme la moissonneuse ou la ligne de montage font de l'homme leur fournisseur, leur contrôleur peut-être, mais aussi leur esclave. L'homme récolte les produits de ce processus, mais il en profite, mais il ne domine plus la production comme il le faisait avec l'outil. Si vous me permettez, je vais résumer ça dans un petit schéma. Comme disait madame, c'est mon côté professeur. Vous voyez, je représente l'ordinateur par cette boîte noire qui est fermée à l'utilisateur courant. On ne sait pas ce qui se passe dedans. C'est mystérieux et c'est un petit peu inquiétant. On perd des textes. Combien d'étudiants vous ont dit « j'ai perdu mon travail » ou « un virus a mangé mon travail ». En fait, le travail, il est là, sauf qu'il est perdu quelque part dans l'ordinateur ou il n'est pas fait. L'ordinateur est une boîte noire. L'ordinateur est une boîte noire que je représente par ce cadre. On y entre par un écran, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mécanismes, et il en sort des données. Évidemment, avec les progrès des robots et de l'intelligence artificielle, l'être humain va devoir s'habituer à cette relation avec une machine de plus en plus indépendante. Toutefois, dans le cas des études littéraires, il me semble que le robot a encore du chemin à parcourir pour devenir un véritable partenaire dans l'analyse. Et que nous devrions, il serait plus sage actuellement de l'utiliser comme un outil plutôt que de lui donner un rôle qu'il ne peut pas encore tenir. Évidemment, cette opacité de la machine ordinateur tient dans une bonne mesure à mon ignorance face au fonctionnement de cette machine et des processus qui permettent d'obtenir les résultats. Un logiciel comme Hyperbass, par exemple, sera pour le spécialiste de la statistique et quelqu'un qui a étudié Hyperbass sera un outil. Son fonctionnement sera totalement transparent. Pour un béotien comme moi, ça sera une machine. Une machine émerveillante, extraordinaire, et qui me fournira des données, mais avec quelque chose de magique. Ça arrive, et je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. Regardez par exemple ce tableau d'AFC, d'analyse factorielle de correspondance que j'ai fait avec le logiciel Hyperbass. J'ai pris les 10 romans les plus célèbres de Balzac et 10 verbes, ce ne sont pas juste les infinitifs mais ce sont les lemmes, donc 10 verbes qui représentent les échanges entre les humains, de donner, prendre, offrir, voler, acheter, etc. Et c'est très simple comme tableau et en même temps c'est très parlant. Vous voyez comme dans à gauche, en bas à gauche, dans les courtisanes ou dans le lys dans la vallée, voler, céder, échanger, accorder, tandis que le cousin pense ou les illusions perdues, acheter et vendre côte à côte, les choses apparaissent très clairement. Parce que là, on reconnaît cela parce qu'on a lu, on ne pouvait arriver à cette conclusion d'ailleurs par nous-mêmes. Mais tout à coup, l'ordinateur illustre cela de manière très claire et absolument émerveillante. Mais il y a quelque chose là de magique. Autre exemple de cette magie de l'ordinateur, si j'ai donné le texte de ma présentation à Cordial. Et il m'a sorti ce tableau. Et si je regarde les mots qui sortent, effectivement, c'est bien mon texte. Mais est-ce que ça nous aide... Enfin, c'est une analyse thématique de mon texte. Mais est-ce que ça nous aide, est-ce que ça vous aiderait vraiment à comprendre mon exposé d'avoir ce tableau? C'est très beau, c'est merveilleux. Mais nous sommes comme séparés du texte par la machine, autant que la machine nous aide à commenter le texte.
Qu'est-ce que signifient les divers couleurs?
Je ne me souviens plus. Je pense que ce sont les catégories. Voyez, cela fonctionne à partir de grandes catégories. Toute la réalité a été subdivisée en catégories. La catégorie de l'humain, de la nature, des idées. Les catégories sémantiques. Si l'on admet ma prémisse précédente que le chercheur littéraire doit demeurer en contact avec le texte qu'il étudie, il en découle que l'ordinateur doit être un outil que l'utilisateur maîtrise totalement et non une machine productrice de données plus ou moins ésotérique. Et bien trop souvent, la machine cache le texte, que cette machine soit une base de données comme Frantext ou un logiciel trop savant pour celui qui essaie de s'en servir. Les logiciels utilisés dans l'analyse de texte, donc que ce soit une base de données en ligne ou qu'ils soient installés dans l'ordinateur, doivent permettre une manipulation transparente du corpus. Ils doivent permettre aussi de créer un processus d'extraction des données totalement adapté à l'ordinateur et totalement en contrôle, adapté à l'utilisateur et totalement en contrôle de cet utilisateur. Ce que j'essaie d'exprimer dans le schéma suivant, que j'oppose donc à ma boîte noire de la machine ordinateur tout à l'heure, vous voyez, il y a l'utilisateur qui lit le texte, évidemment, pour en arriver à une certaine interprétation. Et entre les deux, il y a les logiciels et les procédures que l'utilisateur doit mettre au point pour arriver à cette interprétation. Mais tout cela doit être lié. Il doit y avoir une pénétration entre les différents intervenants pour arriver à cette transparence. Donc cette transparence doit être le résultat d'abord d'un contact avec le texte, que l'ordinateur permet ce contact constant avec le texte dans sa globalité, et deuxièmement que l'ordinateur permet une manipulation du texte, sa transformation, l'extraction des données, adaptée aux objectifs de recherche, intelligible d'un bout à l'autre pour le chercheur, aisé à mettre en place, à appliquer et à contrôler. Pour cela, il me semble plus pratique pour le chercheur de disposer et du texte et de l'instrument d'analyse dans son ordinateur. Et pour moi, la fonction la plus pratique du bibliothèque virtuelle, c'est de permettre de télécharger des textes que je m'approprie et que je mets dans mon ordinateur. Pour pouvoir être utilisé comme corpus d'analyse, le texte téléchargé doit subir différents traitements. Il doit être, on vérifie que c'est une base exacte, il doit être nettoyé, il doit être normalisé. La graphie, par exemple, doit être ordonnée, les paratextes doivent être éliminés, la mise en page doit être réduite. Hein. Et certains logiciels demandent un travail supplémentaire, comme de marquer les sections, de marquer les majuscules. Et cette mise en forme du texte pour l'analyse peut être plus ou moins développée, plus ou moins approfondie, et arriver à un étiquetage très, très précis du texte. Mais cet étiquetage peut devenir un puits sans fond. Et l'exemple de la Text Encoding Initiative le montre. On finit par ne plus discuter que de l'encodage, hein, que du marquage, ou du tagage, comme on dit, du texte, parce que ça devient le sujet même de la recherche. Évidemment, cette profondeur de l'étiquetage va dépendre de l'usage qu'on va faire de ce texte. Si on veut l'utiliser pour une thèse de doctorat, on va travailler sur un étiquetage bien plus approfondi que pour un article. Mais de toute manière, le texte numérique en arrive à prendre trois formes. Hein. Le texte de base qu'on télécharge, le texte qu'on met dans un logiciel de lecture et le texte qu'on nettoie pour servir de corpus d'analyse. Mais la différence avec l'exemple que je donnais tout à l'heure, où on avait deux textes différents par principe, là, les trois textes sont les mêmes. On a un seul et même texte qui prend trois formes pour les deux usages qu'on veut en faire. Les traitements subséquents du texte pour arriver à une interprétation dépendront de l'imagination du chercheur, et c'est à lui de fixer les objectifs et les procédures à mettre en place pour utiliser ce texte. Jusqu'à maintenant, l'essentiel des efforts a porté sur les mots du texte, l'analyse des mots du texte, et considérer le texte donc comme une base de mots. Que ce soit les études sur le vocabulaire d'un auteur, ou sur les analyses thématiques dans lesquelles un thème est réduit à être un ensemble de récurrences lexicales. Que ce niveau d'analyse soit très productif, j'en conviens tout à fait. Je crois cependant que pour développer l'analyse littéraire assistée par ordinateur, il faudra aussi se placer au niveau supérieur du texte, de la phrase entière, hein, jusqu'à la globalité du texte, si on veut justement atteindre la littérarité de l'œuvre, et non pas simplement une banque de mots. Pour le dire de manière radicale, un texte littéraire, pour moi, ce n'est pas des mots. Un roman, c'est des phrases, c'est des paragraphes, c'est des chapitres. Hein. De la poésie, c'est des vers, c'est des poèmes, des strophes. Mais ce n'est pas des mots. Les mots sont comme les briques d'une maison. Pour apprécier l'architecture d'un édifice, évidemment, il faut tenir compte du matériau. Mais ensuite, il est nécessaire d'en considérer les formes, les structures, les fonctions. Analyser le lexique, quand on analyse le lexique d'un texte, évidemment, on ne se place qu'à un certain niveau du texte. Et il ne faudrait pas aussi... oublier les autres niveaux, il faudrait aussi travailler à ce niveau, à ces autres niveaux. Et pourquoi l'ordinateur ne permettrait-il pas d'étudier le texte à des niveaux plus globaux? On pourrait commencer par la phrase ou le vers en poésie, qui me paraît un niveau plus fondamental que le mot. Sans doute la phrase est difficile à définir, mais pas plus que le mot. Hein. Puis on pourrait passer à des niveaux supérieurs, comme dans un roman, par exemple, le personnage, considéré comme un complexe de description, d'action, de parole, ou l'intrigue, considérée comme un enchaînement de thèmes narratifs, ce qu'on appelle les topos. Ce ne sont là que des exemples. J'essaie de représenter ça par le schéma suivant. Ce que j'ai voulu faire, ça n'apparaît pas très bien, mais mon idée, c'était les sept couleurs de l'arc-en-ciel, pour montrer qu'un texte, c'était une globalité, vous voyez, de toutes sortes d'éléments, et il faut les considérer tous. Évidemment, une recherche peut se concentrer, se spécialiser à un niveau, mais le texte, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour produire ces analyses, l'instrument de travail, c'est le logiciel spécialisé. Pour l'utilisateur habituel, un ordinateur, c'est un ensemble de logiciels. Le logiciel est l'intermédiaire incontournable entre le fichier et l'analyse. Le logiciel participe à cette disjonction entre le lecteur et le texte en même temps qu'il relie l'un à l'autre. Le logiciel permet de voir le texte, mais nous met des œillères techniques. Il impose des lectures, il impose des interprétations. Les logiciels comme TACT, SATO, Hyperbase ou Cordial ouvrent des portes sur le texte, mais en même temps, ils définissent des perspectives, ils empêchent de voir d'autres choses. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur deux de ces logiciels, ces deux entreprises, parce qu'elles permettent cet accès au texte, ce contact avec le texte qui, pour moi, dans l'analyse littéraire, est indispensable. D'abord le texte de M. Brunet, Hyperbase, et ensuite le texte de Jean-Marie Vipré, le CD-ROM de Jean-Marie Vipré sur les fleurs du mal. Je m'excuse de faire rougir ces deux personnes en leur faisant des compliments. Quand j'ai préparé ça, je ne savais pas qu'ils seraient présents. Un mot d'abord d'Hyperbase. Hyperbase est bien connu pour les fonctions statistiques qui font sa richesse, mais avant cela, Hyperbase permet de naviguer dans un corpus, soit par une simple lecture au fil du texte, soit en appliquant différents filtres au texte. Et ces filtres vont permettre de vérifier des réflexions, de vérifier des hypothèses. Par exemple, vous avez ici le début de la recherche du temps perdu, et sont marqués en rouge par Hyperbase les mots qui sont significatifs, qui sont représentatifs de ce passage par rapport à l'ensemble du texte. Hyperbase offre aussi un logiciel de concordance, un programme de concordance, soit de concordance réduite, ce qu'on appelle le PRUC, soit des concordances élargies. Par exemple, vous voyez ici le début de la recherche, où vous avez tout le paragraphe, et j'ai cherché, je ne sais pas. On a toutes les occurrences de... Enfin, non pas je ne sais pas, mais je pense que ce que j'ai recherché, c'est le lemme savoir. Hyperbase offre aussi la possibilité de voir les co-occurrences, toujours au niveau, au début de la recherche. Voici par exemple les co-occurrences de longtemps et jamais. Et par la fonction thème, eh bien, Hyperbase permet de voir les relations entre un mot donné et les mots qui sont liés à lui le plus fréquemment. Par là et par la liberté qu'il laisse constamment de basculer entre les données et le texte, Hyperbase permet non pas simplement de faire des statistiques sur les textes, mais véritablement de lire le texte, de travailler le texte et de faire de la recherche dans les textes. Mon deuxième exemple, c'est le logiciel de Jean-Marie Vipré, l'édition électronique des Fleurs du Mal, qui est disponible sous forme de CD-ROM. CD-ROM qui contient à la fois le texte de l'œuvre et le programme d'analyse. Et, entre parenthèses, je suis d'avis que le CD-ROM est un médium qui présente beaucoup d'avantages face à l'Internet, d'un point de vue pratique comme d'un point de vue économique. Mais ce n'est pas notre sujet. Et effectivement, la tendance actuelle est de publier en ligne et les textes et les instruments d'analyse. Donc, les Fleurs du Mal de M. Vipré offrent une édition critique de l'œuvre de Baudelaire avec une sélection des variantes. Et dans un texte, par exemple, vous avez des mots ou des groupes de mots de différentes couleurs. Et cette couleur indique l'origine des variantes, telle édition, manuscrit, prépublication, etc. Et les variantes apparaissent sur le côté. On peut faire donc apparaître différentes variantes, on peut prendre des notes au fil de la lecture, on peut consulter des lexiques de l'œuvre, lexiques des mots à la rime, des lexiques des langues propres, etc. Et par là donc, ce logiciel est effectivement un instrument d'exploration dynamique, comme le dit son auteur. Le CD-ROM en fait contient trois versions du texte. Une version de lecture, une version étiquetée, et l'étiquetage a été vérifié, corrigé manuellement, et une transcription phonétique intégrale de toutes les fleurs du mal. Ce qui fait qu'à côté des programmes de recherche qu'il contient, ou à côté des cartes d'AFC déjà préparées, eh bien, le lecteur, le chercheur, dispose d'un instrument d'analyse du phonétisme et de la métrique des fleurs du mal. Et là, c'est un instrument, ça c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement et je trouve absolument extraordinaire. Hein? J'aimerais bien que M. Vipré m'explique comment il a réussi à faire cette transcription alphabet phonétique international de toute l'œuvre. J'ai pris ces deux exemples parce que ces deux programmes, à côté de leur qualité bien connue au niveau de la statistique, permettent donc de travailler dans les textes, ne nous séparent pas du texte et au contraire nous laissent en contact avec le texte, offrent un accès direct au texte et permettent une lecture non pas simplement comme un livre papier, mais une lecture enrichie de ces textes, donc qui va aider le chercheur dans son interprétation du texte. Mais il ne faut pas oublier que notre ordinateur...
Si on peut conclure pour laisser un peu de place à la discussion. Oui, ça fait à peu près une heure.
Pardon ? Faut pas oublier que notre ordinateur contient aussi des logiciels communs que nous avons dans l'équipement standard qui permettent aussi de travailler et d'analyser les textes les plus connus et ces logiciels comme les traitements de texte ou les tableurs sont plus connus donc plus familiers et sont donc ainsi des médiateurs qui sans doute vont moins impressionner, moins intimider l'utilisateur. Je vais essayer d'aller donc plus vite et je vais conclure simplement en vous donnant des exemples d'utilisation d'un tableur comme Excel, comme instrument d'analyse. Un tableur peut travailler sur des textes exactement comme sur des mots, peut aussi travailler sur des textes. L'avantage du tableur dans les procédures que je vais illustrer par rapport au logiciel spécialisé, c'est de garantir une manipulation totalement transparente du texte. Moi, je ne sais pas ce qui se passe quand Hyperbase travaille. Tandis que le tableur, c'est moi qui fais tout le travail. Et toute la manipulation, toute la procédure a été créée par moi. Donc, à ce moment-là, je suis en contact avec ma recherche. Et lorsqu'on place un texte dans une feuille d'Excel, eh bien, on peut manipuler ce texte en toute liberté à la convenance et selon les besoins du chercheur. On peut l'annoter, on peut en tirer des concordances, on peut en tirer des statistiques, des graphiques. Évidemment, pour faire cela, le texte doit d'abord être entré dans une feuille d'Excel. Alors, comme exemple, j'ai pris ici dans les fleurs du mal. Et si le texte est un recueil de poèmes en vers, c'est très simple, il se met automatiquement dans une colonne d'Excel, un vers comme ça par cellule. Si le texte est un texte en prose, il faut d'abord faire une petite manipulation en demandant à l'ordinateur d'ajouter automatiquement à la fin de chaque phrase un code de retour de chariot et le texte va entrer comme ça dans une colonne automatiquement. Ensuite, le chercheur dispose de milliers de colonnes autour pour mettre ce qu'il veut. Ce que offre Excel et que n'offre pas un logiciel spécialisé, c'est du blanc, c'est des marges. Et on peut faire ce qu'on veut autour du texte. On peut ajouter toutes les colonnes qu'on veut, soit en sortant des données du texte et en les mettant dans des colonnes, et ensuite on demande à Excel de faire des calculs, des statistiques là-dessus, soit en mettant des annotations, et Excel de même pourra faire des calculs sur nos annotations. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai entré le texte des fleurs du mal. Alors, ce que je fais, c'est que je mets dans une première colonne l'identification, le numéro du vers. Bon. Ensuite, quand il y a des manipulations, je peux retrouver les choses. La section du recueil et le titre du poème. Et ainsi, chaque vers sera toujours, à travers toute manipulation, accompagné de son numéro, du titre de la section et du titre du poème. Comme exemple, j'ai recherché ici, dans les fleurs du mal, les occurrences de comme. Et j'ai analysé le comparant, le comparé, hein, les éléments de la comparaison, qui ne sont pas nécessairement explicites dans le texte, donc que l'ordinateur ne peut pas trouver. Hein. Et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leurs vermines. Eh bien, il y a d'abord une comparaison entre nous et mendiants. Hein. L'ordinateur ne pouvait pas le savoir. Et ensuite, une comparaison entre remords et vermines. L'ordinateur ne pouvait pas le savoir. Et ensuite, à partir de cette colonne donc, que j'ai bâtie, la colonne que j'appelle ici comparaison, eh bien, je pourrais faire les manipulations que je veux, en tirer les statistiques ou les graphiques que je veux. Alors, vous voyez que moi, quand je travaille par précaution, je multiplie les pages. Et vous avez en bas ici toutes les pages que j'ai ajoutées les unes aux autres, hein, pour être sûr de ne rien perdre. Et par exemple, donc je peux ensuite en tirer des tableaux, comme vous voyez dans les fleurs du mal, ces comparaisons entre le remords et la vermine. Il y a quatre reprises, donc le remords est comparé, hein, avec comme, donc, à des vers ou à de la vermine. Je peux faire des statistiques, et ici on a le nombre de comparaisons par section. Je peux en tirer des choses comme, là je suis toujours dans ma comparaison, vous voyez à quoi le jeu se compare dans les fleurs du mal. Il se compare à un chat voluptueux, à un mot paisible, à un cœur de vermisseau. À quoi compare-t-il la femme, le elle, l'interlocuteur, hein, à de longs serpents, hein, le sable, l'azur, la houle des mers, etc. Deuxième exemple. J'ai mis comme cela boule de suif dans une page d'Excel. Et donc là, j'ai séparé les phrases, numéroté les phrases, et il n'y a pas de section dans boule de suif. Hein. Mais j'ai mis les sections en fonction des lieux successifs dans l'histoire. Vous savez que boule de suif, c'est l'histoire de cette prostituée un peu grasse donc, qu'on surnomme boule de suif, et elle prend une diligence avec un certain groupe de bourgeois, de représentants de la société de l'époque, et il se trouve arrêté par un officier allemand. Et l'officier allemand demande à Boule de Suif ses services professionnels, ce qu'elle refuse par patriotisme. J'ai cherché dans Boule de Suif les sujets des phrases. Donc j'ai divisé le texte en phrases et cherché les sujets des phrases. Et ce que j'appelle les sujets ou les acteurs, c'est pas les sujets grammaticaux. Vous voyez par exemple, j'ai séparé les phrases en fonction de leur sujet. Alors chacun des personnages, comme ça peut être un sujet, ou le groupe des personnages peut être un sujet, ou les phrases qui ont un sujet singulier, ou les phrases qui ont un sujet pluriel, ce n'est pas un personnage, j'en ai fait des catégories différentes. Et vous voyez par exemple ce que j'appelle boule de suif sujet. Une phrase comme la femme, une de celles appelées galantes, était célèbre par son embonpoint précoce qui lui avait valu son nom de boule de suif. Pour moi, c'est une phrase boule de suif sujet. Elle était de plus, disait-on, une phrase boule de suif sujet. Boule de suif à plusieurs reprises se pencha, évidemment, boule de suif sujet. Mais aussi, j'avais ma maison pleine de provisions, c'est boule de suif qui parle, une phrase boule de suif sujet. Il a fallu me cacher après ça, phrase boule de suif sujet. Il veut coucher avec moi, cria-t-elle. Elle cria, donc, boule de suif sujet. Ou la grosse fille avait un enfant, il s'agit d'une boule de suif. Donc, pour moi, dans une colonne à côté de mon texte, j'ai marqué toutes ces phrases comme ayant boule de suif comme sujet. Exemple inverse, vous voyez des phrases qui ont comme sujet grammatical. On lui était reconnaissant de ce sentiment, Pour moi, j'entrais entre cette phrase-là dans la catégorie sujet pluriel, parce qu'ici, on, c'est un on général. On partit, ça c'est pour moi le sujet de cette phrase, c'est ma catégorie voyageur, parce qu'ici, ce sont les voyageurs. Cependant, on n'appelait pas la voiture, pour moi, c'est un on singulier. Je fais entrer ça dans ma catégorie singulier. Donc, j'ai marqué comme ça toutes les phrases par leur sujet. Ensuite, j'ai divisé le texte en groupes de 20 lignes. Pour voir la progression de ces sujets au cours de l'histoire. J'ai un tableau général où il y a tous les sujets, mais là, il y en a trop. J'en ai sélectionné d'abord ici, vous voyez, deux. Alors, j'ai le nombre de phrases qui contiennent mes deux sujets, ce que j'appelle le sujet pluriel et le sujet singulier, c'est-à-dire, donc, c'est aucun des personnages. Et le déroulement du texte, vous voyez, parce que j'ai fait des blocs de 20 phrases à chaque fois. Et on constate que le texte de Maupassant commence par des phrases au pluriel. Il y a d'abord un certain nombre de considérations générales. La population de Rouen avait telle réaction face à l'armée allemande, l'armée allemande, les officiers agissaient comme ça, etc. Il y a d'abord un certain nombre de phrases plurielles donc, qui se croisent avec des phrases singulières. Et si je sélectionne les phrases qui ont un sujet singulier, je m'aperçois que toutes ces phrases-là dans le texte sont des phrases de considération générale. C'est là que Maupassant parle, donne son avis sur cette histoire. Et on voit donc que ces phrases-là, qui ont des sujets pluriels ou singuliers, sont très importantes au début et ensuite diminuent. Et même les phrases plurielles, vous voyez, disparaissent à la fin. Parmi les personnages, maintenant, je ne vous montre pas un tableau avec tous les personnages, j'en ai sélectionné trois de mes sujets. Les phrases qui contiennent Boule de Suif comme sujet, les phrases qui contiennent l'ensemble des voyageurs de la diligence, dont Boule de Suif, et ensuite les phrases qui contiennent les voyageurs sans Boule de Suif comme sujet. On voit donc qu'au début, les personnages ne sont pas apparus. Ils apparaissent simplement dans la deuxième section. Et d'abord, c'est la ligne mauve. On a les voyageurs comme un ensemble. Puis, Boule de Suif apparaît. C'est la ligne jaune. Et elle prend de l'importance parce que on la voit, elle est décrite. Ensuite, elle agit, elle mange. Alors que les autres voyageurs n'ont pas apporté de la manger, elle s'est apporté tout un panier. Et ensuite, elle se raconte. Puis, elle va avoir un rôle moins important. Et regardez la ligne maintenant bleu foncé, la ligne des voyageurs moins Boule de Suif. Quand on arrive à l'auberge, l'officier allemand demande indirectement à Boule de Suif donc, ses services. Et Boule de Suif va refuser. Et à ce moment-là, elle n'est plus active, elle n'est plus sujet des phrases. Ce sont les autres voyageurs qui vont commencer à tramer dans son dos pour arriver à la convaincre de se donner à l'officier allemand pour qu'il puisse partir. Donc vous voyez que Boule de Suif, la ligne rose ou mauve disparaît. Et la ligne bleu foncé, c'est les voyageurs qui conspirent contre Boule de Suif, au contraire, devient très, très importante. Donc l'interaction entre les personnages au fil du texte apparaît comme ça par un simple tableau Excel. On peut aussi se demander, dans les phrases où Boule de Suif est acteur et sujet, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors j'ai sélectionné les phrases où j'avais marqué Boule de Suif comme sujet et là j'ai regardé quel était le verbe principal. Alors vous voyez que Boule de Suif au début est décrite. Elle est, elle apparaît comme cela. Ensuite elle agit. Elle mange, elle se penche pour prendre son panier, elle hésite. Bon. Ensuite, elle parle, elle se raconte. Puis, on arrive à l'auberge, l'officier lui fait sa proposition, et elle se domine, elle tressaille, elle répond, elle résiste, et ensuite elle se referme sur elle-même, elle refuse. Elle ne parle plus, elle manifeste son refus à plusieurs reprises. Puis elle hésite, elle est regardée et finalement elle est brisée par les autres voyageurs, les derniers verbes, vous voyez, se rédire, pleurer, rester, pleurer. Et ça finit, elle est en larmes, elle est brisée par les autres qui l'ont utilisée. Voilà, l'objectif de ce travail était vaste mais moderne. J'espère que c'était moderne, mais c'était modeste. Voilà ce que je voulais dire, que c'était modeste. J'ai essayé de faire un tableau de la diversité des ressources offertes en termes de textes numériques par l'Internet dans le champ de la littérature française. Ces ressources sont importantes, hein, mais de qualité inégale et distribuées inégalement à travers les époques couvertes par la littérature. L'utilisation maintenant de ces ressources textuelles me paraît encore très problématique. La lecture d'un roman à l'écran de son ordinateur ou d'un PDA n'est pas entrée dans les usages quotidiens. Hein. Le champ des études littéraires assistées par ordinateur ne s'est pas développé, je le crains, comme les pionniers du domaine pouvaient l'espérer. Je souhaite me tromper, ou alors peut-être que nous sommes au creux d'une vague, hein, et que cela va reprendre dans le futur. Je vous remercie de votre attention.
Merci pour cet exposé, c'est un peu étendu, mais qui était très dense et je crois vraiment très utile pour montrer les applications possibles. Alors, nous avons quand même le temps de quelques questions à Michel Lemaire, mais de toute façon, on pourra aussi continuer hors séance plénière. Mais qu'est-ce qui peut intervenir en réserve ?
Oui, moi j'ai beaucoup apprécié votre exposé qui vous résume des années d'enseignement et de pratique. J'ai adhéré à la première partie, mais j'avoue n'avoir pas très bien compris votre dépression concernant Frontex et autres logiciels et banques de données. Ensuite, surmonté, me semblait-il, par un certain optimisme relatif à vos propres études, dont d'ailleurs le lapsus final était significatif à mes yeux. J'ai déjà dit que tous les lapsus ne l'étaient pas, mais celui-ci me paraissait significatif. Alors je m'explique. Vous vous trouvez devant une espèce, un état de dépression devant une chère page, une contexte, tout simplement parce qu'il faut un apprentissage de ces logiciels. De même qu'il vous a fallu un apprentissage du tableur. Le tableur, ce n'est pas une donnée universelle acquise à la naissance. Nous apprenons tout. Quand on parle de statistiques ou d'indicateurs chiffrés, nous apprenons que la température humaine est en principe normalement de 37 degrés, etc., à telle heure de la journée, mais elle peut monter de 1 degré. Bon, tout ça, c'est de la frite. J'avoue que je n'ai pas très bien compris, si ce n'est qu'on vous demande d'apprendre, mais que c'est justement notre métier, nous sommes là pour ça. Ça fait des années qu'on enseigne ça, qu'on crée des cours, des séminaires, etc. Au contraire, moi, je vois un certain optimisme dans votre intervention.
Oui, oui. Deux choses différentes. Les réserves que j'ai face à Frontex, c'est simplement que Frontex ne donne pas un accès au texte. Et ce que j'ai dit, c'est que pour moi, d'un point de vue littéraire, il faut avoir un accès au texte sur lequel on travaille. Je n'ai aucune réserve face à Hyperbase. Au contraire, je trouve que c'est un travail absolument extraordinaire. Et je l'ai mentionné, au contraire, comme exemple de logiciel qui permet cet accès au texte. Hein. Hyperbase permet de faire des recherches statistiques sur les textes, mais aussi permet cet accès au texte et de basculer constamment de l'un à l'autre. Si j'ai dit que j'avais des réserves face à Frontex, je n'ai pas voulu manifester la moindre réserve face à Hyperbase. Ma réserve était à ce moment-là que les analyses statistiques, les analyses littéraires qui se font actuellement, il me semble, sont essentiellement au niveau du vocabulaire, au niveau des mots du texte, hein, et c'est un traitement statistique des mots du texte. Et ça, c'est extraordinaire. Mais ma position, c'est qu'il faudrait aussi penser à faire autre chose.
Une autre question. Voilà. Je ne suis pas du tout un spécialiste d'analyse assistée par ordinateur, mais je constatais en faisant des recherches qu'il existe une très grande association internationale, Association for Literary and Linguistic Computing, qui illustre les recherches actuelles qui se sont énormément développées et qui, à ma connaissance, sont largement dépassées ce niveau. Et je signale au passage que le prochain congrès de cette association, qui en général se tient aux quatre coins du monde, majoritairement dans les pays anglo-saxons, est à Paris. Paris 4, oui. Pour l'année 2006, et que sont mises au concours dès maintenant des possibilités de présentation de projets. Hein. Il faut aller voir sur le site www.allc.org.
Oui,
je crois que là-bas, on a, et en consultant leur revue, on a l'état actuel précis de l'avancement de la recherche.
Oui, oui, c'est bien sûr.
Je crains que le monde francophone, du point de vue de l'analyse statistique, entre autres, soit un peu dépassé. Mais je ne suis pas du tout.
C'est l'impression que j'ai, moi aussi, parce que je suis abonné à la liste humaniste, et on donne des nouvelles comme ça de ce qui se fait aux États-Unis, et ils ont annoncé que le prochain colloque va se tenir à Paris. Effectivement, c'est l'impression que j'ai aussi.
La recherche à l'heure actuelle est largement au-delà des statistiques lexicales.
C'est l'impression que j'ai aussi qu'aux États-Unis, en anglais, il se fait des choses beaucoup plus diverses. Mais ce n'est qu'une impression, je ne sais pas.
Patrick Rebollard, vous voulez poser une question?
Je voudrais d'abord remercier M. Le Maire, parce que je trouve que c'est une belle dissertation, en même temps qu'un grand panorama. Et l'aspect dépression, optimisme que signalait Henri, moi j'appelle ça antithèse et thèse, hein, avec des aspects différents. Une petite question quand même plutôt d'épistémologie. Lorsque vous faites l'étude des sujets, des verbes par exemple, est-ce que vous avez un a priori qui vous permet de commencer cette étude, ou bien est-ce que vous la décidez en aveugle et que ensuite le résultat vous permet d'interpréter le texte?
Bien, c'est comme ça, c'est comme dans toute recherche, on part d'intuition. Donc je connaissais le texte et je me suis dit ça serait intéressant de voir dans ces phrases là comment les personnages interréagissent. J'appelle ça la danse des personnages, comment ils agissent et comment il y a une évolution là-dedans. Et ensuite donc, on a une hypothèse comme dans toute recherche, on commence à la tester, si ça marche on continue, si ça marche pas on en essaie une autre, hein. C'est ce que j'ai fait.
Et là donc en fait vous avez vérifié l'intuition et ça marche.
Bien sûr.
Alors, enfin, c'est mon impression. Alors faudrait ensuite prendre le même la même démarche et l'appliquer à une autre œuvre sur laquelle on n'a pas du tout l'intuition pour voir si le système lui-même fonctionne comme système d'analyse des sujets.
Oui, mais je ne voulais pas vous proposer une grille d'analyse, une méthode, c'était simplement un exemple. Pour moi, chaque chercheur doit inventer une procédure sur le texte qu'il veut étudier.
Étienne Brunet voulait intervenir après.
Je devrais plutôt me taire, puisque ces questions beaucoup d'hyperbales. Mais je voudrais répondre quand même à l'intervenant précédent pour dire que, pour appuyer ce que tu as dit, c'est vrai que s'il s'agit seulement de statistiques lexicales, c'est peut-être un peu dépassé. Mais la version d'hyperbale que tu as présentée est elle-même dépassée. Actuellement, la statistique se fait non seulement sur les mots, mais également sur les lèvres, c'est-à-dire le regroupement des formes sous la même fenêtre de regroupement, mais aussi sur la syntaxe, et aussi sur les structures syntaxiques, et sur les codes grammaticaux et tout, et à partir de là, sur la thématique. Je ne donnerai pas l'occasion de le montrer, mais je voulais simplement dire que les Français aussi évoluent.
L'intervention n'est pas du tout un caractère
polémique. Mais je n'ai pas voulu dire, j'espère que je n'ai pas dit que la statistique était dépassée ou que se situer au niveau des mots du lexique c'était dépassé. J'ai simplement dit que c'était un niveau d'analyse qui jusqu'à maintenant, il me semble, a été privilégié et qu'il faudrait aussi songer à étudier le texte à d'autres niveaux.
Distinction singulier pluriel, les médias aussi donnent dans la peine que la position de CED par rapport à ce sujet. C'est-à-dire que double suivre agit au début du récit et elle agit, elle est nucléée à la fin. On devrait, vous et moi, faire un calcul. Vous voyez, où on voit le pronom personnel représentant le public. COD pour voir si ça marche mieux.
Oui. Ou les verbes à l'actif, les verbes au passif. Voilà. C'est tout à fait bien sûr.
Je crois que Serge, c'est à vous, c'est confiant. Vous avez insisté sur la continuité de lecture entre la technique de livre et la technique. Il me semble pourtant, alors si on prend l'exemple de la lecture de texte en ligne via la lecture logicielle, que le lecteur participe à la production de son environnement de lecture, que sur les combats d'affichage, que sur le phonétrage. Et donc la lecture n'est plus simplement affaire d'accès, d'interprétation, mais aussi de transformation technique obligée. Et ça, c'est, pour moi, c'est comme une différence.
Le deuxième point, vous avez appelé de conduire une forme de transparence. Il me semble pourtant qu'on pourrait parler d'une dissimulation structurelle propre à tout programme informatique. Si je prends l'exemple du lien hypertexte, quand je clique sur un lien hypertexte, je ne peux pas savoir en tant que lecteur si c'est un lien statique. Donc si je clique soit sur le lien qui accéderait à chaque fois au même fragment de la manière, ou bien un lien dynamique, à savoir d'ailleurs un tirage aléatoire, ou bien en fonction de telle ou telle condition, etc., telle ou telle fragment différente. Pourquoi? Parce que entre la forme d'enregistrement et la forme de réception, il y a la médiation du calcul, puisqu'on n'a pas le support imprimé, hein, puisque la forme d'enregistrement et la forme de réception, elles sont identiques. Alors là, à une même forme d'enregistrement, peuvent correspondre plusieurs formes de réception, et c'est parce qu'il y a cette médiation du calcul-là qu'on a une sorte d'opacité induite, qui est propre à la forme de calcul. Je ne suis pas certain d'en arriver à cette forme de conférence, donc je vais finir sur une remarque un petit peu polémique. Si on prend en compte cette dimension calculatoire et dynamique du support numérique, on va se poser la question de savoir si la nature d'un texte numérique, finalement, plus l'être du lisible, ce n'est pas avant tout l'être manipulable.
Ben, le texte numérique, oui, le texte numérique apporte ça, hein, d'être manipulable beaucoup plus que le texte papier, bien sûr. Mais quand vous parlez de liens, dans les textes traditionnels dont je parlais, ce ne sont pas des hypertextes. Hein, donc toute cette dimension-là disparaît. Et quand j'ai employé le mot transparence, c'était plutôt une métaphore. De la connaissance, le chercheur doit avoir une connaissance complète des procédures qu'il invente et qu'il utilise.
Voilà. On va, si vous voulez bien, s'en tenir à deux questions qui m'ont été demandées, parce que sinon on n'aura pas le temps de prendre une pause et de prendre le temps d'écouter Xavier Malbraille. Donc c'est Thomas et puis Michel également qui souhaitaient poser une question.
Ouais. Jo, merci, c'était très bien votre présentation. Je voulais juste vous poser une question sur les questions des normes. On a horreur des compagnies comme Microsoft, et on en a besoin. Tous ces livres qu'on a ici sur les étagères, on n'a pas besoin de 15 000 logiciels différents pour les lire. Et bon, moi j'ai mon PDA qui a également mon téléphone, mais à l'époque j'avais plusieurs lecteurs et j'en avais marre, il y avait trop de lecteurs nécessaires. Et je ne sais pas si vous voyez, vous avez montré mon e-book, etc., si vous voyez un besoin ou une possibilité qu'un jour on va avoir une forme.
Moi aussi, dans mon PDA, j'ai trois lecteurs. Et puis, j'aimerais mieux gagner qu'un seul, parce que là, je me dis, bon, ce texte-là, je l'ai mis pour le lire avec tel lecteur ou tel autre. Et alors, il faut que je cherche. J'aimerais mieux n'en avoir qu'un seul. Et personnellement, j'aimerais mieux que ce soit e-reader, parce que je trouve que c'est le plus beau et le plus pratique. Mais là, on arrive à la question, est-ce qu'il faut imposer une norme? Puis à ce moment-là, ceux qui veulent la liberté ou qui n'aiment pas cet instrument se révolteront, ou alors est-ce qu'on laisse la multiplicité? Actuellement, donc, on a la multiplicité, on peut choisir le lecteur qu'on veut, hein, et même à la limite, on peut prendre un texte, donc, si on aime vraiment tel lecteur, on peut prendre un texte et acheter le logiciel de transport du texte pour ce lecteur et l'adapter. Et à ce moment-là, on n'a plus qu'un seul lecteur, hein, mais on se complique les choses. Non, mais moi aussi, j'aimerais mieux avoir un seul lecteur, hein, plutôt que trois.
Michel, c'est juste aussi une réflexion pour rebondir sur ce que va faire sur
les possibilités.
Pardon, c'est quand même important. Enfin, une remarque sur le problème de lisibilité à l'ordinateur, même avec de bonnes conditions. C'est-à-dire, par exemple, les PC tablettes qui ont des formats A4 qui permettent une manipulation, qui permettent une annotation, puisque ces PC tablettes ont des crayons électroniques qui permettent d'annoter directement le texte, de surligner. On a une table de matière accessible, etc. Il reste toujours une difficulté à lire réellement. Bon, alors, qui est dû aussi très bêtement au support, parce que l'ordinateur, ça a besoin d'électricité, et tout le monde a eu la désagréable surprise de ne plus avoir de batterie, et ce genre de choses. Mais je pense, parce que bon, j'ai travaillé aussi, dans une autre vie, au problème d'acquisition, enfin, des méthodes de lecture. Comment lit-on? Qu'est-ce que c'est que lire? Qu'est-ce que c'est que voir le texte? Et il y a quelque chose qui est, à mon avis, inséparable du livre papier, du support papier, qui n'existe pas dans l'ordinateur, c'est la possibilité de cartographier le texte. Quand on lit un texte, quand on se l'approprie, on cartographie, on se fait une cartographie imaginaire et on sait retrouver un passage parce qu'on se souvient visuellement qu'il y avait telle forme de paragraphe, qu'il y avait tel mot d'une page. Enfin, il y a un certain nombre de choses que l'on mémorise même inconsciemment et l'ordinateur qui propose, l'écran d'ordinateur qui propose de la mise à plat ne permet pas ça. Ce qui fait que ça rend effectivement très très difficile la lecture de texte. Et plus, ben, pour avoir une expérience pédagogique dans ce domaine, plus on est, entre guillemets, mauvais lecteur ou lecteur peu pratiquant et peu averti, et plus on a de difficultés derrière un lecteur.
Oui.
Et là, vraiment, il faut prendre une formule de et ça devient vraiment un écran au savoir. Moi, je le constate dans ma pratique pédagogique.
Je suis bien d'accord avec vous. Ma position, c'est que c'est une question d'habitude. Nous avons été habitués à lire avec le livre et que, à mon avis, cela va changer. Par exemple, vous parlez de la cartographie du texte d'un livre. Bon, mais dans le texte électronique, on peut placer des signets. Clac, clac, on place un signé, puis on garde notre liste de signets. Et dans un certain point de vue, c'est encore plus pratique que cette cartographie par la mémoire dont vous parlez. C'est sûr que le livre a des avantages, que l'écran a des avantages. En plein jour, faut placer l'écran très exactement pour voir le texte. Sans ça, on ne voit plus rien. Hein. Bon. Mais inversement, je peux lire la nuit dans mon lit sans lumière. Et, je pense vraiment que c'est une question d'habitude et que dans 10 ans ou 20 ans... enfin, mais ça, c'est juste un sentiment personnel.
Alors, on va s'en tenir là, si vous voulez bien, pour prendre une petite pause, mais le mieux, c'est de poser la question directement à Michel Lemaire pour pouvoir reprendre dans la
meilleure soirée.